Ce message s'intitule « Le départ soudain et secret de l'Église ».
Seigneur, nous disons aussi comme ça autrefois, je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison d'Éternel ». On ne pourrait pas trouver un meilleur endroit aujourd'hui qu'ici même, dans l'Assemblée du Seigneur, pour l'adorer. Il peut pleuvoir à l'extérieur, il peut y avoir toutes ces calamités, mais quand nous sommes dans ta présence, nous serions de satisfaction de savoir que tu connais et fais concourir toutes choses parfaitement pour notre bien. Ce matin, nous voulons te demander de venir spécialement ceux qui n'ont pas pu se rendre à la réunion. Peut-être que plusieurs seraient venus s'ils n'avaient pas fait si mauvais. Mais puisse-t-il être réconforté en lisant ta parole et en entendant des prédicateurs à la radio et ces programmes qui sont faits à l'intention de tes gens? Nous te demandons de venir tout spécialement ceux qui sont ici dans ta présence divine. À cause de l'effort qu'ils ont fait ce matin pour venir entendre la parole du Seigneur et pour le servir par des chants et par des prières et par des actions de grâce. Et nous te demandons, ô Dieu, une touche du Seigneur aussi sur les malades et les nécessiteux qui sont maintenant dans l'attente et qui sont venus de loin pour faire prier pour vous. Et nous prions simplement d'abaisser ton regard sur nous et de nous parler afin que ton peuple ici réuni ce matin puisse s'examiner lui-même. Sonde-moi, comme disait l'un des prophètes, et éprouve-moi pour voir s'il y a d'iniquité en moi. Et si tu vois qu'il y a de l'iniquité en nous, Seigneur, veuille nous en purifier comme nous confessons humblement nos péchés et nos mauvaises actions. Veuille seulement te souvenir de nous comme tu contemples Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés et nos iniquités. Et que nous confessons que nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour ce but, et que nous avons le privilège de faire ceci ce matin. Accorde-le, Seigneur, et parle-nous par ta parole écrite. Comme nous nous attendons à ce que tu le fasses, nous prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous voulons prendre comme lecture des Écritures le livre des Thessaloniciens au 5e chapitre.
Those who have the request for prayer also
Et j'ai les noms aussi de ceux qui ont demandé la prière ce matin. Et cela se fera tout de suite après la prédication. Donc, pour un moment, alors que vous ouvrez vos Bibles, prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et lisons quelques instants. Je m'excuse ici, tandis que vous ouvrez vos Bibles, les enfants n'ont pas encore été renvoyés pour leur classe d'école du dimanche. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous y rendre tout de suite, vous les enfants et les adolescents, et ainsi de suite? Allez tout de suite à vos classes. Et maintenant, si vous pouvez ouvrir vos Bibles, 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre. Et si le conseil d'administration est ici présent, j'aimerais le rencontrer après le service dans le bureau des diacres. Pour parler à faire. Ils ne sont pas ici, qu'on leur dise donc de me rencontrer ce soir juste avant le service dans le bureau des diacres. Maintenant, comme sujet, je désire prendre ceci comme sujet ce matin. Le départ soudain et secret de l'Église. Laissez-moi l'annoncer encore, car je n'ai pas eu le temps de méditer beaucoup sur ce que j'allais dire. J'ai dû me dépêcher, nous sommes sortis hier en fin de journée et j'ai dû rentrer très tard hier soir. Et ce matin, je me suis dépêché à venir ici, mais ceci est tout frais à ma pensée. Et peut-être que tout à l'heure, je recevrai quelque chose qui fera du bien à quelqu'un. J'aime tellement ce sujet, l'enlèvement soudain et secret de l'Église. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants. Et vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Maintenant, je désire que vous regardiez sur cette page telles qu'elles sont typographiquement placées dans vos Bibles. Les 16e, 17e et 18e versets du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa sainte parole. C'est une chose plutôt exceptionnelle à prêcher. Mais il y a une maladie plus grave que la maladie physique. Et il est bien plus important que nous soyons bien disposés pour ce grand événement qui est sur le point d'arriver. Que d'être même endormi dans le Seigneur, c'est-à-dire mort, comme nous le savons. Il vaut mieux être prêt. Je préfère être un homme malade, prêt à rencontrer le Seigneur, que d'être un homme en bonne santé et pas prêt à rencontrer le Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, Dieu veut que nous soyons et en bonne santé et prêts à rencontrer. Et pour l'âme et pour le corps. Car il pardonne toutes nos iniquités et nous guérit de toutes nos maladies. Il est mort pour un double dessein. Et je pensais aujourd'hui à ce sujet de l'enlèvement soudain et secret. J'aime cela. Les gens vivent aujourd'hui comme si Dieu, juste avant la venue du Seigneur Jésus, allait envoyer une armée d'anges qui serait vue dans tous les journaux. Et que ce serait annoncé environ un an d'avance dans le monde entier, dans les journaux, qu'à telle et telle date, Jésus va arriver. Et ce serait radio-télévisé partout, le jour et l'heure exacte de sa venue. C'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Mais Dieu a dit dans sa parole que ce serait comme un voleur dans la nuit. Il en est ainsi, les gens diraient comme le monde pense aujourd'hui, il reste encore beaucoup de temps, ce sera tout annoncé. Mais vous voyez, c'est annoncé, mais c'est une annonce secrète. C'est seulement pour ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui veulent y prêter attention et ceux qui aiment le Seigneur. Ça me fait penser à ce que Paul disait quand il dit « La couronne de justice m'est réservée. » Le Seigneur juste juge me la donnera dans ce jour-là. Puis il s'arrête, si vous remarquez, et il ajoute, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si nous aimons son avènement, habituellement, les gens du monde pensent à l'avènement du Seigneur comme à une chose affreuse et terrible. Oh, les gens peuvent en arriver sur le sujet en disant, « Ne me parlez pas de ça, diront-ils. » Ils ne veulent rien savoir là-dessus. Non, ils sont indifférents. Ils vivent juste pour le siècle présent, mais ceux qui aiment le Seigneur aiment son avènement. Quand diriez-vous si l'un de vos bien-aimés, pour certains d'entre vous qui êtes plus vieux, si votre mère ou votre père ou votre enfant était parti? Vous êtes parti au loin depuis longtemps et voilà que vous apprenez qu'ils peuvent être de retour à n'importe quel moment. Eh bien, votre maison serait toute nettoyée, vous seriez prêt et vous surveilleriez la route à chaque fois que vous verriez les phares lumineux d'une voiture qui passe, vous penseriez que c'est eux. Eh bien, c'est de cette façon-là que l'Église devrait attendre la venue du Seigneur.
All in order.
Elle devrait être tout en ordre.
All ready.
Toute prête.
All packed up.
Toute préparée. Et prête à partir dès qu'il arrive, parce que cela se fera en un instant, en un clin d'œil. Essayez juste de mesurer combien de temps il vous faut pour cligner de l'œil. C'est exactement cette rapidité que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Vous savez, l'ennemi utilise toujours les mêmes tactiques que le Seigneur utilise. Vous savez, lorsque il vit que Dieu allait avoir une église vertueuse et les choses qu'il allait faire, il utilisa cette même stratégie. Il a une église. Et il a un peuple qui est très religieux. Et comme peuple religieux, il s'attend à quelque chose. Parce qu'il sait que l'Église de Christ est comme ça. Et il agit de façon stratégique. Je lisais un article il n'y a pas longtemps sur l'attaque soudaine de Pearl Harbor. Ce n'était pas tout à fait une attaque imprévue. Ils avaient déjà été avertis, prévenus, l'intention des Japonais de le faire.
But the sad part was,
Mais ce qui est triste, c'est qu'ils en ignorèrent. Ils avaient ignoré l'avertissement. Vous avez vu les signes de rassemblement de l'armée japonaise et les grands navires chargés de munitions, et il y avait de l'agitation dans l'air. Et ils étaient bel et bien voués à l'invasion, mais ils l'ont simplement ignoré. C'est ce qu'on est aujourd'hui avec l'Église. L'Église est vouée au jugement, mais ils ignorent la venue du Seigneur. Donc, vous ne pouvez pas le blâmer, lui. On dit que lorsque le bruit se répandit dans Pearl Harbor, les Japonais pouvaient attaquer à n'importe quel moment. Leur flotte énorme, leur énorme flotte s'était mise en route sur la mer. Elle se dirigeait lentement mais progressivement sur Pearl Harbor. Il ne fut que s'en moquer. Oh, il dit, c'est un non-sens. Ce n'est qu'un tas d'histoires de mauvaises plaisanteries. Oh, de gens qui n'ont que des idées sombres dans la tête. Et la nuit qui précéda la grande attaque qui eut lieu le matin, ils avaient organisé une grande danse, un grand party dans la ville même de Pearl Harbor. Et peu importe combien de fois on essaya de leur dire que les Japonais étaient en route, ils ne voulaient toujours pas écouter l'avertissement. Imaginons la scène pour quelques instants. On entend ici un petit communiqué à la radio. Et là, on voit un petit article dans le coin d'un journal qui ressemble tout à fait à une annonce de campagne de guérison. Juste un petit espace. On dit que les Japonais naviguent sur les eaux territoriales et qu'ils viennent dans cette direction. Ce ne sont des blagues de dire l'homme. Qui pourrait croire pareille chose? De quoi essaie-t-il de nous faire peur? Et puis alors que nous arrivons à la tombée de la nuit, je peux les voir dans leur maison, au lieu de se préparer à s'enfuir de la ville. Les jeunes filles mettent toutes leurs nouvelles robes et ainsi de suite pour aller à cette grande fête qu'ils vont avoir. Et les officiers de l'armée sont occupés à remplir les permissions pour que les soldats puissent tous se rendre à cette soirée, à cette grande beuverie. Et les troupes venaient ici, là, en chantant, apportant leurs meilleures bières et leurs vins pour la soirée.
Always drove there and they failed to hear a warning.
Et pendant tout ce temps-là, les Japonais étaient en route là-bas, mais ils firent sourde oreille aux avertissements. Comme le soleil s'apprête à se coucher et que tous les gens se retrouvent ensemble dans ces grandes tavernes, on peut voir quelque part dans un coin un garçon de comptoir prêter un comptoir ou faire quelque chose de la sorte en disant:
Hey, did you hear the rumor? No, I don't believe it did, said the man he spoke to.
Dis donc, tu as entendu parler? Non, de répondre l'homme à qui il s'est adressé.
Oh, they say something about a Japanese fleet that he's coming this way.
Oh, il parle d'une flotte japonaise qui se dirige sur nous. Puis une autre personne se mêle à la conversation. Une jeune fille de la ville qui s'amène en coup de vent au comptoir se met à dire: espèce de vieux rabat-joie, ne sais-tu pas qu'on est ici pour se payer du bon temps et non pas pour parler de guerre? Le monde a à peu près la même attitude aujourd'hui vis-à-vis la venue du Seigneur. Vous autres, espèces de vieilles antiquités, disent-ils, qu'est-ce qui vous pousse à vous habiller de la sorte et à agir comme vous le faites? Oh, mais nous attendons cette apparition secrète et soudaine du Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose dans l'air, un message du Saint-Esprit qui nous dit que sa venue est proche. Puis alors l'immense flotte faisait route. Oh, ça dû être terrible ce soir-là. Car on raconte qu'à un moment donné, ils prirent ces jeunes femmes et ces belles jeunes filles, les déshabillèrent et les firent monter dans un camion avec seulement leurs sous-vêtements et les firent courir dans la rue, et ainsi de suite, juste pour se payer du bon temps. Et pendant tout ce temps-là, les Japonais gagnaient du terrain, venant tout droit sur eux. Puis le lendemain matin, les hommes de garde dans la tour de contrôle, qui étaient sortis toute la nuit pour se saouler et courir avec ses femmes et ainsi de suite, ils étaient si épuisés de sommeil et leur nuit les avait tellement flânés qu'on les trouva endormis à leur poste de travail. Et j'ai peur qu'il en soit exactement ici à l'avenue du Seigneur. L'Église ici enveloppée et noyée par les soucis du monde qui seront trouvés endormis à leur poste de devoir quand le Seigneur viendra. Les flammes jaillirent sur la ville et les bombes tombèrent et la ville fut tout simplement rasée. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulurent pas écouter l'avertissement.
And that young lady all
Et lorsque ces soldats japonais, ces brutes envahirent la ville et ils violèrent les femmes dans les rues pour ensuite les couper en morceaux de leurs couteaux. Et ainsi de suite, car si vous refusez de prêter oreille à l'avertissement, il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement. S'il y a jamais un temps où l'immoralité de l'Amérique est à son comble, c'est bien maintenant. Et son indifférence, l'Évangile a été prêché d'un océan à l'autre. Des signes et des prodiges ont été accomplis, des grands miracles, et ils s'enfoncent continuellement dans l'impiété. Buvant, ignorant l'avertissement et se moquant. Parmi les 200 000 églises protestantes que nous avons en Amérique, ce dont nous avons besoin aujourd'hui en chair, c'est de prophètes du Seigneur qui n'aient pas peur de faire retentir les tonnerres du jugement de Dieu sur cette génération pécheresse à qui nous prêchons. Nous avons besoin de prophètes comme Ésaïe. Qui éleva sa voix et cria, « Oh, génération perverse, et n'a-t-il pas condamné cette génération? Et ne leur a-t-il pas parlé du jugement qui venait? Mais aujourd'hui, trop de nos prédicateurs ont peur de dire ces choses. Ils ont peur d'envoyer un avertissement direct. Car ça signifierait pour eux perdre leur poste, quitter leur dénomination et cesser de prêcher ou encore s'en aller ailleurs, appuyer une autre église ou quelque chose à ça. Mais c'est bien dommage que nous ayons ces hommes-là en chair. Nous avons besoin d'hommes comme John Wesley, comme Martin Luther du temps de la Réforme. Nous avons besoin d'hommes comme Paul, qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont et s'abandonner complètement à Dieu, même jusqu'à la mort. Pour être un témoin du vrai évangile de Jésus-Christ. Il ne va pas aujourd'hui dire que l'éducation et la mondanité et toutes ces petites choses raffinées de notre société et son égocentrisme ont pris la place du Saint-Esprit dans l'Église. Dont nous avons besoin aujourd'hui pour prêcher à l'Amérique, c'est d'hommes envoyés de Dieu et d'hommes remplis de la puissance du Saint-Esprit qui n'ont pas peur de s'élever contre les choses qui sont fausses. Et d'avertir les gens du jugement imminent. Dieu ne pourrait en aucune façon épargner ce pays du jugement.
If God would do so, he would have to lay
Si Dieu faisait et le faisait, il serait obligé de relever Sodome et Gomorre et de s'excuser auprès d'elle. Les avoir anéantis à cause de leur péché. Dieu ne fait pas d'exception pour nous. Voyez-vous ce que nous sommes devenus aujourd'hui quand on considère notre politique, quand on considère notre gouvernement? Tout ça est pourri d'un bout à l'autre. Il n'y a plus de justice du tout. Seulement en Dieu. Nous disons nous appuyer sur les Nations Unies, et il y a 5 ans déjà, il y avait 51% de communisme dans l'Organisation des Nations Unies. Vous ne pouvez vous appuyer sur rien, si ce n'est la parole du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur rien, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la politique. J'ai été cité en justice depuis ces 3 ou 4 derniers mois pour de sérieuses accusations. Vous essayez de m'accuser d'avoir fait quelque chose de faux en distribuant cet argent au tabernacle ici pour les réunions. Chose pour laquelle le conseil d'administration ici a signé son consentement, il n'y a pas une personne qui ait jamais assisté à mes réunions qui puisse nier que j'ai dit publiquement que cet argent qui était recueilli dans mes réunions était destiné à cette église. Et maintenant, ils disent que parce que j'ai donné cet argent au bénéfice de l'église, j'ai essayé de frauder le gouvernement. Et ils veulent me donner 20 ans de pénitencier à Fort Kansas. Je dis, qu'est-ce que ça vaut pour nous? Notre cour de justice n'a pas plus de valeur que ce qui était écrit là. J'ajoutais alors que tout ce que vos associés m'ont dit de faire, je l'ai fait. Et maintenant vous dites, à condition que cela soit encore valable aux yeux du gouvernement. Comment pouvez-vous lui dire une chose avec des preuves à l'appui pour en arriver à une autre chanson? Pas seulement ça, mais ce sont de vraies girouettes. J'ai fait cette remarque en cours fédéral, j'ai dit, si le communisme avait une part de christianisme en lui, je me ferais communiste. Mais je ne le peux pas, parce qu'il nie le christianisme. Ainsi, je n'ai qu'une seule main sur laquelle m'appuyer, et c'est la main éternelle de Dieu, sachant qu'il honorera la vérité. Celle-ci devra triompher. En justice, mais ça vous montre qu'il n'y a aucun espoir nulle part, seulement dans la venue du Seigneur. Oh, dans quel temps vivons-nous? Quel temps terrible! Alors que toutes les choses d'ordre naturel, même l'Église, les gens d'Église, l'Église dénominationnelle, ils sont si préoccupés par leurs petits différents qu'ils ne veulent même pas fraterniser les uns avec les autres. Ils ne tiennent pas compte de la venue du Seigneur qui est proche. Des hommes tels que Billy Graham, Jack Schuller, Oral Roberts et plusieurs grands évangélistes et Charles Fuller. Dans un ministère international, ils font tout ce qu'ils peuvent pour annoncer la venue du Seigneur. Ces hommes qui poursuivent le bien, c'est précisément ceux-là que le gouvernement essaie de discréditer. J'ai dit à quelqu'un, « Monsieur, j'ai consacré 28 années de ma vie au service de Dieu pour le bien. » Je voudrais que quelqu'un me regarde dans les yeux et me dise que j'ai déjà pris quelque chose à quelqu'un ou si j'ai volé quoi que ce soit dans ma vie, par la grâce de Dieu, j'en ai les mains pures. Cela ne signifie pas plus pour eux que si vous faites claquer vos doigts. Vous êtes coupable de toute façon, me dire-t-il, et vous êtes un dictateur dans votre église. Vous faites claquer vos doigts dans votre église et vous obéissez à vos ordres. Oh, je dis, ah, jusqu'à quel point l'homme peut être injuste. Il dit, vous avez fait des dons à des gens dont la maison fut détruite par le feu. Voici des chèques de centaines de dollars que vous avez fait à des veuves pour payer leur loyer, et ainsi de suite. Êtes-vous d'abord allé à le dire à votre église que vous aviez l'intention de le faire? Je répondis, non, monsieur. Pourquoi, me dit-il? Je répondis, parce que le Seigneur me dit dans sa parole que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il dit, vous essayez de défendre votre cause par la Bible. Et nous vous jugeons par la loi. Je dis, qu'est-ce qui est le plus grand, la loi des hommes ou la loi de Dieu? M'en tiendrai à la loi de Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, alors que j'étais en vacances et que je revenais à la maison, ici en Indiana, la limite de vitesse est de 65 000 à l'heure durant le jour sur les grandes routes. Et 60 000 à l'heure la nuit, une fois le soleil couché. C'est pareil au Kansas, c'est pareil en Illinois, c'est pareil au Colorado, c'est pareil en Idaho, c'est pareil au Wyoming. Et sur mon chemin de retour, après m'être trouvé dans une tempête de neige depuis plusieurs jours, je venais d'attraper un orignal et j'étais en route vers la maison pour l'apporter à mes amis.
And I had to hurry to try to beat another blizzard was just behind me or I'd be set up again.
Et je devais me dépêcher pour essayer d'échapper à une autre tempête qui s'annonçait devant moi quand j'allais être arrêté une fois de plus, et la viande allait se gâter. Et comme je sortis du Wyoming pour entrer dans le Nebraska, j'avais fait à peu près 30 000, et tout à coup, en me retournant la tête, j'aperçus la lumière rouge de la police. Je n'ai jamais été arrêté de ma vie, ainsi j'ai simplement, j'ai regardé mon cadran qui indiquait 60 000 à l'heure, j'étais à 30 ou 40 000 de toute civilisation. Roulant simplement sur la grande route, une grande route à quatre voies. Et comme mon indicateur indiquait 60 000 à l'heure, je me retournais encore et il continuait à rester derrière moi. Et je voyais la lumière rouge qui tournoyait et je me dis, eh bien, pourquoi ne dépasse-t-il pas, il a cette place? Et au bout d'un moment, je baissais ma fenêtre et j'entendis la sirène. Je pensais, eh bien, je ne peux pas me coller plus à droite. Il me dépassa et m'arrêta. Je sortis de la voiture en pensant qu'il s'agissait peut-être d'un message que je n'avais pas reçu à la radio, ou un message de ma maison, de ma femme, de ma famille. Je sortis de la voiture d'un air tout à fait innocent et il dit, « Je pense que vous ne seriez jamais arrêté. » Je dis, « Comment allez-vous, monsieur? » Il dit, « Vous étiez en train d'enfreindre la limite de vitesse. » Saviez-vous à quelle vitesse vous alliez, dit-il? Je répondis, oui, monsieur. Je roulais à 60 000 à l'heure. Il dit, justement, et ce n'est pas légal. Je dis, n'est-ce pas 65 000? Non, monsieur, dit-il, c'est 55 000. Vous êtes 5 000 au-dessus de la limite de vitesse. Oh, excusez-moi, dis-je. Je ne pensais pas que... Donnez-moi votre permis de conduire, dit-il. Montrez-moi donc votre permis de conduire. Je l'ai sorti de ma poche. Et aussitôt qu'il vit le nom révérend, son regard fit jaillir des étincelles. Il prit sèchement son carnet et se mit à me remplir une contravention de $24.50. Je dis, allez-vous me donner une contravention? Sûr que je vais vous en donner une, dit-il. Je dis, bon, ça va, mais monsieur, je n'ai rien vu sur le chemin. Il dit, ah, il y a un signe juste à la sortie de la frontière, vous auriez dû le voir. Je dis, bon, voilà, quatre jours quand je me trouve dans une tempête de neige et je ne l'ai sans doute pas vu, monsieur. Il dit, bon, avez-vous de l'argent sur vous? J'ai à peu près $12, dit. Il dit, bien, vous allez rester juste ici jusqu'à ce que vous le payiez. C'est à peu près vers 10h ou 11h du soir. Je dis, monsieur, je lui ai expliqué ce qui n'allait pas, et la viande, etc. Et il s'en fichait complètement. Ainsi, je dus signer une déclaration formelle de leur envoyer l'argent. Une fois arrivé à la maison, j'écrivis au juge de la petite ville ou de la petite région où je devais envoyer cet argent.
25 years at that time, 26 years in the service of the Lord.
Je lui dis, monsieur, j'ai consacré à peu près 25 années de ma vie, 26 au service du Seigneur. Essayant de convertir des criminels au Seigneur Jésus, essayant de protéger votre vie qui est celle d'officier. Essayant de former une meilleure société, un meilleur monde, et plus décent, un monde meilleur et plus décent pour nos familles. J'ai consacré plus de 20 ans à ce service et voilà que j'ai enfreint votre loi. Je pense que vous devriez me pardonner pour cela. J'ajoutais, mais votre officier n'a même pas voulu le considérer du tout. Peut-être est-il censé agir de la sorte, car il a un travail à exécuter. Mais je vous demande en tant que juge, non pas pour la question d'argent, mais en tant que principe. L'argent avec lequel on paiera ceci provient de... C'est l'argent que les gens donnent à l'Église pour mon soutien. Je dis, si vous voulez être assez aimable de me pardonner, j'apprécierai ce geste. Toutefois, voici un chèque qui a été certifié afin que vous sachiez qu'il est en ordre. Frère, il l'a simplement signé et encaissé froidement. Pourquoi? Pourquoi? Et avec la politique pourrie et les préjugés de religion, certains d'entre eux sont coupables de meurtre. C'est ce qui arrive. Dieu ne laissera pas son Église vivre longtemps sous de pareilles conditions. Et le monde est corrompu, la politique est corrompue, et l'Église est corrompue. On a davantage besoin de faire à ce sujet, c'est que les gens qui ont la crainte de Dieu se rassemblent et invoquent le nom du Seigneur. C'est ce que le Branham Tabernacle a besoin de faire. Oh, si j'en avais le temps, combien je pense que pourrions nous étendre ici sur la façon dont les églises agissent. Comme ils ont la conscience de plus en plus large, de voir comment ils les laissent agir, ils les laissent aller danser le rock and roll, et les laissent s'habiller de la façon dont ils veulent, et ainsi de suite, et ils continuent toujours de la sorte. Ce sont des prédicateurs qui se compromettent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un prédicateur à l'ancienne mode, né et envoyé d'en haut, qui dira la vérité, peu importe qui elle vient. Comme Jean qui dit la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Nous avons besoin de prédicateurs et de prophètes comme ça. Qui vont bombarder et utiliser les jugements de Dieu comme munition pour démolir cette perversion dans laquelle nous vivons. Vous ne vous débarrasserez jamais du péché en le caressant.
Vous ne vous débarrasserez jamais du péché par l'éducation. Nos programmes ont échoué et ont failli. Il n'y a qu'un remède pour le péché, et Christ est ce remède. Et non pas Christ à travers une confession intellectuelle, mais à travers le baptême du Saint-Esprit dans une vie nouvelle et dans une régénération. C'est le seul remède qui existe pour le péché. C'est le seul remède pour un pays, c'est le seul remède pour une église, c'est le seul remède pour les gens. Ici, il n'y a pas longtemps, je pense que plusieurs d'entre vous qui voyageaient sont allés à cet endroit. Je m'y suis arrêté plusieurs fois pour y passer la nuit. En allant dans l'Ouest, où d'ailleurs je dois aller la semaine prochaine avec la permission du gouvernement, ils me retiennent ici. S'il est question de que je m'absente, ils peuvent me retrouver juste ici. Et je dois aller à quelques réunions là-bas sur la côte ouest. Et Dieu voulant, je passerai par cette petite ville appelée West Memphis, d'Arkansas. C'est juste en face de Memphis, Tennessee, qui est de l'autre côté du fleuve. Et dans cette ville, ils voulaient dépenser 2,5 millions de dollars pour construire une piste de course pour le jeu. 2,5 millions de dollars. Pour dégrader, pour polluer, pour envoyer des âmes en enfer. Et ensuite, ils arrêtent des hommes comme Billy Graham, Oral Roberts et moi-même, et ceux qui souffrent pour Christ, les accusant de distribuer de l'argent illégalement à une église, et ils veulent les condamner à 20 ans de pénitencier fédéral. Le monde a toujours voulu agir comme ça. Je dis, j'ai des frères qui ont fait de la prison fédérale. L'un des avocats dit, vous avez des frères en prison fédérale? Je dis, j'en ai eu. Il dit, qui furent-ils? J'ajoutais, l'un d'entre qui était-il? L'un d'entre eux était un frère Jean à Alcatraz sur l'île de Patmos. Et l'autre était frère Paul dans la prison fédérale. Et frère Daniel aussi fut emprisonné, et frère Joseph pour avoir été accusé d'une chose dont il était innocent. Il fut au service de Potiphar pendant des années, essayant de lui être un bon serviteur, et la femme de celui-ci l'accusa, il fut condamné et resta en prison pendant des années, et ses favoris, ses cheveux avaient poussé à tel point qu'il dut le raser pour pouvoir l'amener devant Pharaon. C'est sûr? Mais pour quelle raison? Pour quelque chose de faux? À cause de Christ. Parfaitement. Ensuite, ils veulent dépenser 2,5 millions de dollars pour une piste de course pour polluer, damner et envoyer les âmes en enfer.
Vous pensez si Dieu vient bientôt. Mais les gens d'Arkansas firent quelque chose à ce sujet. Chaque église, je pense que 9 ou 10 différentes dénominations de cette région, nous sommes tous rassemblés, ils ont dit c'est faux et nous, nous ne voulons pas de cela. Et ils organisèrent une réunion de prière. Et des chaînes de prière. Restant toute la nuit en prière. Et le lendemain matin, lorsqu'ils se rendirent tous à la cour pour rencontrer les juges et les agents fédéraux pour savoir si cela allait être construit ou pas, ils furent exaucés et le projet échoua. La prière change les choses. Peu importe combien le monde est pourri, combien notre pays est pourri, ou notre nation, ou nos gens, nos prières changent les choses. Mais nous ne sommes plus intéressés dans les réunions de prière. Nous avons tant d'autres choses à faire. Qu'est-ce que nous pensons? Et ensuite, non seulement cela, ce projet de piste de course qui va jeter. Mais il fut déclaré aussi qu'il n'y aurait plus jamais de choses de la sorte en Arkansas pour bien des années à venir. Pourquoi? Parce que le peuple sur qui est invoqué son nom s'est rassemblé et pria. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous rassembler, de nous préparer, et sans dépendre du prédicateur, et que vous-même, en tant qu'individu devant Dieu, vous vous prépariez pour la venue du Seigneur, afin d'échapper à toute cette corruption. Peu importe de quoi ils vous traitent, et quelles mesures ils emploient contre vous, cela ne change pas Dieu pour le moins du monde. Dieu le fera de toute façon. Il compte sur nous et il attend près de nous.
Oh my! Some people say, well, I go to church on Sunday morning, I listen to our pastor, which is a fine preacher.
Oh, il y a des gens qui disent, je vais à l'église le dimanche matin, j'écoute notre pasteur qui est un bon prédicateur. Eh bien, je l'apprécie, c'est bien, mais vous pouvez être d'Amérique ou d'ailleurs dans le monde, peu importe qui vous êtes, mais il faut plus qu'un bon message en chair pour vous préparer. C'est votre vie qu'il faut, c'est vous-même qu'il faut pour vous préparer. En Apocalypse 19, verset 7, la Bible dit en parlant de l'épouse de Christ qu'elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Et vous, en tant que membre de cette épouse, vous devez vous préparer. Une fois, il y avait un ministre qui prêchait, et il y avait un homme qui assistait à ces réunions depuis, oh, un bon bout de temps, et il s'avança ce matin-là à l'hôtel et dit,
Pastor, I now wish to give my testimony and my my surrender to the Lord Jesus, which I have done last night.
Pasteur, je désire maintenant donner mon témoignage et abandonner ma vie au Seigneur Jésus, ce que j'ai fait hier soir.
And the pastor said, well, I am sure glad to hear about that, John. To know that you have decided to finally come and give yourself to the Lord.
Et le pasteur dit, eh bien, je suis si content d'entendre cela, Jean, de savoir que tu as finalement décidé de venir donner ta vie au Seigneur. Car nous ne voulons pas te blesser, mais nous savons que tu as été un très mauvais sujet. Nous savons que tu as maltraité ta famille. Tu as dissipé ton argent dans les jeux et dans la boisson. Tu as eu une vie misérable et ta famille était dans le besoin. Et combien ça réjouit mon cœur ce matin de savoir que tu as maintenant fait ce pas et que tu vas abandonner ta vie au Seigneur Jésus pour devenir une autre personne et le servir. Et oui, merci, pasteur. Mais il y a une question que j'aimerais te poser. Quel sermon aurais-je prêché? Ou quel texte aurais-je utilisé? Ou quel chant ou quelle hymne aurait été chanté à l'église pour réellement te convaincre? Et comme le jeune homme le regardait dans les yeux et que les larmes coulaient sur ses joues, il dit, « Pasteur, ce n'était pas vos sermons aussi bons qu'ils étaient. » Vous n'avez pas non plus les chœurs chantés et les spéciaux aussi bons qu'ils étaient. Et alors, veux-tu dire à cette assemblée ce qui t'a poussé à faire ta décision? Il dit, je travaille avec un homme qui est un chrétien. Et je l'ai traité de toutes sortes de choses. Je l'ai traité d'exalté. Je l'ai traité de fanatique religieux de toutes choses et cela ne lui a rien fait du tout. Mais il a une vie si remarquable que finalement, petit à petit, il a pris une place dans mon cœur. Il dit, je voulais devenir comme cet homme et c'est pour ça que je lui ai demandé de me conduire à Christ. Je désirais avoir le Christ qu'il servait. Vous voyez, Dieu travaille au travers du pasteur pour préparer son église. Il agit au travers des chants pour préparer son église. Et il agit à travers vous pour préparer son église. Si votre pasteur faillissait et continuait à faillir, vous iriez vous chercher un autre pasteur. Rapidement, c'est ce que vous faisiez. Si votre chorale ne chantait pas comme il faut ou que vos solos n'étaient pas corrects, vous diriez au directeur, celui qui conduit la musique, ne les laisse plus chanter, ils me rendent simplement nerveux en chantant ainsi. Mais qu'en est-il de vous, en tant qu'individu? Combien de fois faillissez-vous dans votre vie quotidienne? Comment accomplissez-vous ce que Dieu a dit que vous devriez être, une lumière qui brille sur une montagne? Personne ne peut passer près de vous sans entendre parler de Jésus.
Oh, quelle sorte de vie vivez-vous? Êtes-vous impassible quand on vous insulte? Ou devenez-vous indifférent? Ou pouvez-vous leur parler de la paix et de l'amour que vous avez trouvé en Christ? Elle s'est préparée. Comment je pourrais vous montrer la condition de perversion, mais je n'aurais pas le temps de parcourir les âges et vous montrer ce qui arrive à chaque fois, comme à Babylone le soir qu'il fêtait, dansait et buvait. Et tout le long des âges, il en a été ainsi, et dans chaque âge, Dieu a eu des prophètes de tonnerre, avec des signes et des prodiges. Qui ont condamné la chose devant tout le peuple et qui sont restés seuls avec Dieu. Pas seulement ça, mais si je parlais du temps du petit Étienne, il n'était pas un prophète, pas un pasteur, juste un membre du corps de Christ. Comment ce petit homme se tint devant le conseil du Sanhédrin ce matin-là et cria à ceux qu'il condamna et dit, « Hommes au cou raide, est-ce que concis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. » Il n'était pas un pasteur. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre pasteur fasse pour vous. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les administrateurs le fassent pour vous. Ou les diacres. Vous devez vous préparer vous-même. C'est une affaire individuelle. Mais souvenez-vous que sa venue est si soudaine que l'Église s'en ira en un clin d'œil. Si nous voyons le péché de toutes parts et le jugement qui attend dans les cuirassés de la colère de Dieu qui vient, comment y échapperons-nous? Les signes apparaissent. Jésus vient. Et le grand prodige s'accomplit. Chaque poteau indicateur indique son apparition prochaine et elle se produira en un instant. Quelle est notre position ce matin comme nous en faisons l'examen? Si on nous parlait ce matin et que le Seigneur descendait ce matin du ciel avec le cri et la trompette de Dieu, serions-nous trouvés prêts? En tant que corps Église? Serions-nous prêts en tant qu'individus pour nous joindre à ceux qui sont ressuscités des morts et qui ont prouvé qu'ils étaient prêts? Peu importe si nous sommes prêts ou pas, le Seigneur Jésus viendra de toute façon au temps marqué. Nous devons être prêts et nous devons le faire maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons racheter le temps et être prêts. Il y a une fois, j'ai une histoire juste avant de terminer qui m'a frappé. Je l'ai entendue il y a bien des années. Cette venue secrète du Seigneur.
Le départ soudain et secret de l'Église. De deux qui seront dans les champs, j'en prendrai un et j'en laisserai un. De deux qui seront dans un lit, j'en prendrai un et j'en laisserai un. Montrant que la venue du Seigneur ne se produira pas seulement à un certain endroit, elle sera universelle. L'un sera à travailler au champ en plein jour. L'autre sera au lit à dormir de l'autre côté de la terre. Ce sera un enlèvement universel. Et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange, et la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ ressusciteront et seront élevés secrètement. Oh, combien j'aime cela. Le grand époux qui vient et l'épouse s'est préparée à attendre ce moment sacré qu'elle ne connaît même pas elle-même. Mais elle est prête et habillée et elle l'attend. Nous voyons les signes indicateurs dans le monde qu'elle est prête pour le jugement. Nous voyons les signes et les prodiges dans l'Église, de grandes choses qui se produisent. Quelle sorte de gens devrions-nous être? Prêts à l'instant, car nous ne savons pas quand il vient. De même, soyez prêts, car vous ne savez pas à quel moment ou à quelle heure notre Seigneur viendra. Soyez prêts, car vous ne le pourrez pas à ce moment-là, car il a dit que vous ne le pourriez pas. Combien d'entre vous ont lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages, les autres étaient folles. Vierge veut dire pureté. C'étaient tous de bonnes gens, chacune de ces vierges, des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient l'huile dans leur lampe entrèrent, et les autres sont restées de côté. C'était tous des vierges, chaque personne, des gens sur lesquels vous n'aviez rien à redire, pour quoi que ce soit. Chacune d'elles croyait dans l'avenir du Seigneur. Elles étaient prêtes à aller le rencontrer, mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. Que cela ne soit pas votre cas, continuez à remplir votre lampe d'huile. L'huile est l'Esprit, le Saint-Esprit. Il ne tarisse jamais en vous, lorsque vous ressentez ce sentiment d'amour en vous, et cette sincérité envers Christ et envers la cause, allez rapidement à lui qui possède la fontaine d'huile. Et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Notre nation est finie complètement. Coulie et ruinée. Notre politique est pourrie et finie. Nos chefs d'État. Oh Dieu! Que pouvons-nous faire à ce sujet? Vous élisez un homme bon et il finit par devenir un escroc. Il n'y en a qu'un qu'on puisse élire maintenant et c'est le Seigneur Jésus. Préparons-nous pour sa venue.
Some years ago, in the close, this sudden great rapture of the church.
Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années en terminant. Cet enlèvement secret et rapide de l'Église. Maintenant, vous dites certaines choses vont arriver et ensuite je me préparerai. Préparez-vous maintenant! Je viens juste de vous parler de Pearl Harbor et de tous ces endroits où ils refusèrent d'entendre l'avertissement. Ils ont refusé de l'écouter. Il ne reste rien d'autre que le jugement de Dieu sur les gens. Maintenant, tous ceux qui n'entreront pas en Christ seront sous la colère et le jugement de Dieu. Je vous en prie, que cela ne vous arrive pas. Peu importe ce que le Branham Tabernacle finira par devenir, que cela ne vous arrive pas à vous. Soyez vous-même un serviteur de Christ, peu importe ce que l'Église du monde fait. Soyez un serviteur de Christ. Ça n'est pas encore du Branham Tabernacle. Ça ne dépend pas non plus d'une autre église, il en tient à vous, en tant qu'individu, d'être prêt à la venue du Seigneur. Vous devez être prêt. Je dois être prêt. Je balaye mon propre portique, c'est à vous de balayer le vôtre. Laissez le mien tranquille. Et moi, je laisse le vôtre tranquille. Vous devez préparer votre habit. Il y avait une fois un important propriétaire de ranch, et le ranch qu'il possédait était des plus vastes. Il se trouvait là-bas dans le nord du Colorado, près des montagnes. Comme vous le savez tous, j'ai connu un peu la vie de ranch et d'élevage, et ainsi de suite. Une des premières fois que Dieu m'appela, j'étais chaussé d'une vieille paire d'éperons du Texas, avec un fusil accroché au côté et un pistolet à ma ceinture, et j'entendis ces arbres siffler. On aurait dit une voix qui disait, Adam, où es-tu? Et comme je levais la tête vers les étoiles, j'entendis un vieux cow-boy du Texas qui sifflait à travers un peigne et un morceau de papier à la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom, la gloire. Je me mis la couverture sur le visage, j'essayais de me cacher parce que Dieu avait baissé son regard sur ces montagnes. C'était sur l'un de ces ranchs où les grandes compagnies achètent leur bétail. Ils les amènent dans les montagnes, puis ils les font sortir après que leurs veaux sont nés, et à l'automne, ils les marquent au fer et ils en vendent quelques-unes, et des bœufs de l'ancien troupeau, etc., et ils continuent à élargir leur grand troupeau. Et sur un certain range, le propriétaire ou le gardien. Qu'on appelle là-bas le premier, le surintendant. Il avait 5 filles.
They were all beautiful women, young, single.
Elles étaient toutes de jolies, jeunes et célibataires.
And there was a little lady there, which
Il y avait là une petite dame qui était une cousine de ces demoiselles, et son père et sa mère étaient tous deux décédés. Et on l'avait amenée là-bas pour habiter chez son oncle. Et ces filles, comme elles étaient de ce genre de filles qui aiment apporter ces robes à volants, virent cette pauvre fille et la traitèrent simplement comme un animal. C'était à elle que revenaient tous les travaux pénibles. Elle lavait la vaisselle, faisait le nettoyage, faisait les lits, c'est elle qui faisait tout. Tandis que les autres flânaient autour avec leurs polis à ongles et leurs effets de manucure et leurs rouges à lèvres toutes pavées, vous savez, cuirées à quatre pingles. Et elles agirent spécialement de la sorte quand elles apprirent que de Chicago, le jeune fils unique du patron de la compagnie à qui appartenait l'établissement allait venir visiter le ranch. Oh, elles mirent leurs plus beaux habits et elles s'habillèrent et se préparèrent comme jamais parce qu'il venait. Et chaque soir, elle se disait qu'elles allaient enjôler ce jeune homme et le marier, et celle qu'il marierait alors hériterait du ranch, car le fils devenait héritier de toutes choses. Ainsi, elles se préparèrent. Donc, vous voyez, il doit y avoir une préparation. Si vous vous préparez en vous joignant à une église ou autre chose, ce n'est pas tout ce qu'il faut. Vous devez avoir de l'huile dans votre lampe. Nous vous habillons en disant, nous construirons une grosse église, nous appartiendrons une meilleure dénomination, nous donnerons un orgue à tuyaux au Seigneur, nous ferons des fauteuils rembourrés, ce n'est pas ce que Dieu demande. La justice en son Fils Christ Jésus, c'est ce que Dieu demande. Et elle se préparait pour l'avenue de ce jeune homme. Bien entendu, cette pauvre petite cousine qui me faisait penser à quelqu'un qu'on aurait expulsé quelque part. Vous l'auriez appréciée. C'était une jeune femme. Mais au mal, c'était une gentille petite fille, mais elle n'était pas même considérée parmi elles, pas même comme cousine. C'est à peu près la vraie image de l'Église véritable aujourd'hui aux yeux des dénominations. Ce sont des interdénominationnels, un groupe d'expulsés. Ainsi la pauvre continua simplement à faire la besogne, et lorsque le jeune homme arriva, elle ne le savait pas, mais il venait dans l'intention de trouver une épouse. Il était fatigué et en avait assez des filles de ville qui étaient toutes avachies, et oh, vous savez, qui fréquentent les bars et qui se promènent en Cadillac, etc. Il en avait assez de ça. Il pensa, j'irai dans l'Ouest me chercher une vraie femme. Qui sera une vraie mère pour mes enfants, une femme qui ne passera pas son temps dans les cercles de couture et tous ces cercles, mais qui sera une
simplement une grammaire.
What did he find when he got there? But the same thing that he'd condemned in Chicago.
Et qu'est-ce qu'il trouva quand il arriva là-bas? La même chose qu'il avait désapprouvée à Chicago.
I wonder if the Lord Jesus will find the church just a denomination. Just by name. A church.
Me demande si le Seigneur Jésus trouvera l'église comme ça. Juste une illumination, juste des noms, une église, pas d'huile dans les lampes, pas prête à partir. Oh, ils ont de beaux habits, ils ont de belles grandes églises, des plus grands citoyens, toutes ces choses, mais Dieu ne veut pas de cela. C'est vous qu'il veut. Comme individu. Ils ont beau avoir le meilleur pasteur, ils ont beau avoir le meilleur groupe de diacres, mais c'est vous qu'il veut et avec de l'huile. Il vient enlever cette épouse remplie d'huile. Comme ce garçon les regardait, il était tout désorienté. Ce soir-là, ils avaient préparé quelque chose de spécial. En ce temps-là, il y a assez longtemps de cela, ils appelaient cela le Charleston, ce qui est tout comme le rock and roll.
And they were going to throw one of those big parties. Many of you people remember that old.
Ils avaient organisé une de ces grandes soirées. Plusieurs d'entre vous se souviennent de cette vieille danse du Charleston. Autrefois, quand j'étais plus garçon, ils mettaient tous ces habits noirs et blancs, vous savez, pour faire ceci. Ils appelaient ça le Charleston et le Black Bottom. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Elles avaient mis ses vêtements de couleur et elles allaient faire ses danses. Mais ce garçon n'avait pas dessus la tête de ces choses. Il cherchait une vraie femme. Ainsi, il s'échappa de leur fête. Il les avait observés. Il était allé les voir exactement comme un autre fils que je connais. Un autre fils viendra à votre église. Lui, le fils de Dieu, il ira et il y jettera un coup d'œil et verra vos beaux habits, s'apercevra de votre bon membre. Mais il cherche quelque chose d'autre que ce petit caractère banal d'église. Ainsi comme il regarda ici, là, au bout d'un moment, il fut si découragé qu'il prit la porte. Et comme il s'en retournait, qu'il marchait au clair de lune vers le bâtiment des lits. Il entendit quelqu'un qui s'approchait en chantonnant. Et il leva les yeux et voici c'était cette jeune fille qui venait avec un grand bac d'eau de vaisselle. C'était en pleine nuit, elle était nu-pied, elle allait jeter son eau de vaisselle. Et aussitôt qu'il l'aperçut, quelque chose lui dit en lui-même, c'est elle, c'est celle-là. Ainsi, il se mit en travers de son chemin et quand elle revint du ruisseau, voilà qui se tenait là, debout. Et il s'en fallut de peu pour qu'elle perdit connaissance. Elle dit, comment allez-vous? Il dit, quel est votre nom? Et elle lui dit son nom, et c'était le même nom que celui du propriétaire du ranch. Il dit, eh bien, je ne comprends pas. Comment cet homme n'est-il pas votre père?
Said, no,
I'm just a cousin, you see. My father and he were brothers. I've got the same name. But that's about it.
Elle dit, non, je suis simplement une cousine. Mon père et lui étaient frères. Je porte le même nom, mais c'est à peu près tout.
You might have the name of church. Might have the name of Branham Tabernacle or Methodist or whatever church you go. But that isn't it, friend.
Vous pouvez avoir le nom d'église. Vous pouvez avoir le nom de Branham Tabernacle ou de Méthodiste ou peu importe l'église où vous allez. Mais ce n'est pas la question, mes amis. Voyez-vous?
It's something different. It's your character.
C'est quelque chose de différent. C'est votre caractère.
That's what God is looking at. You might be Methodist, you might be Baptist, you might be Presbyterian. It's not that. It's character that God looks at.
C'est ça que Dieu regarde. Vous pouvez être Méthodiste, vous êtes Baptiste, vous êtes Presbyterien, mais ce n'est pas cela. C'est le caractère que Dieu regarde.
Not just earthly character, but Holy Spirit character.
Pas seulement le caractère terrestre, mais le caractère du Saint-Esprit. Les signes accompagneront ceux qui ont cru, a dit Jésus, dans le 16e chapitre de Marc. Elle était si nue,
de
ce qu'il lui adresse même la parole. Elle gardait sa tête baissée, elle courut à la maison. Il demeurait là une semaine ou deux. Et il avait examiné toutes choses, et il ne parlait pas, mais il continuait à l'observer. Le soir qui précéda son départ,
il
devait partir le lendemain matin, et elle avait commencé une autre grande soirée, et il l'attendait, il ne la voyait pas, il savait qu'elle avait à faire la vaisselle, et ainsi de suite. Tous les durs travaux afin que toutes les autres n'aient rien à faire. C'est ainsi que l'Église de Dieu doit l'encaisser parfois. Les durs travaux. Tous les noms scandaleux et tous ces dards qui sont dirigés intentionnellement contre elle. Mais elle est un grand oiseau tacheté. Tous les autres oiseaux se rassemblent autour d'elle pour lui arracher les plumes, mais ça ne fait rien. Son nom est dans le livre de vie de l'agneau. Elle étendra ses grandes ailes de ses jours pour prendre son envol. Elle est prête. Tout tacheté, le sang de Christ a été répandu sur elle. Vous l'avez lu dans votre livre, la Bible. Et ce garçon rencontra la jeune fille ce soir-là qui sortait. Il dit, je vous ai observé. Personne ne sait si c'est moi-même que je suis venu ici pour me trouver une femme. Et parmi toutes celles que j'ai vues, vous répondez à mes désirs. Elle ne fut pas cette fille. Le fils du patron lui demande maintenant si elle voulait devenir sa femme. Imaginez un peu que ces jeunes filles durent ressentir quand elles regardaient par la fenêtre. Et le vieux qui tenait la main de cette petite cousine méprisée. L'homme qu'elles avaient essayé de séduire avec toutes leurs belles robes à volants et leurs manières.
And he said, "Will you marry me?"
Et il dit, voulez-vous m'épouser?
Oh, she said, "Sir, I'm not worthy."
Oh, dit-elle, monsieur, je ne m'en suis pas digne.
That's the way the real church deals with that.
C'est ainsi que se considère la vraie église par rapport à cela.
I'm not worthy. If I can just wash your dishes, it'll be all right.
Je ne suis pas digne. Si je peux seulement laver votre vaisselle, ce sera parfait.
Are you willing to take that place?
Êtes-vous prêt à accepter cette tâche?
Could you wash the dishes and the supper? Would you be willing to be called fanatic, or would you be willing to be taken away with the Lord of this past? Are you willing?
Laveriez-vous la vaisselle du souper? Seriez-vous prêt à faire vous faire traiter de fanatique? Ou seriez-vous prêt à prendre le chemin du petit troupeau du Seigneur? Êtes-vous prêt?
Are you willing at your work to be marked? There's a man, he's a religious fanatic because he won't drink, he won't smoke, he doesn't dance, he doesn't run with women.
Êtes-vous prêt à être dévilisé à votre travail? Cet homme-là est un fanatique religieux parce qu'il ne boit pas, il ne fume pas, il ne court pas les femmes.
There's a woman that gets her head down, she walks right down to the town, she's not sure to join our circle.
C'est une femme qui baisse les yeux quand elle se promène en ville, elle ne veut pas faire partie de nos cercles.
Are you willing to take the way? Make yourself ready for the coming of the Lord.
Êtes-vous prêt à prendre ce chemin, à vous préparer pour la venue du Seigneur?
If you do, you'll be waiting for him to come.
Si vous l'êtes, vous serez réellement dans l'attente de sa venue.
You're joy at his coming.
Vous vous réjouirez de sa venue.
It'll be the most gracious moment that you can think of.
Ce ne sera pas une chose terrible, ce sera la chose la plus merveilleuse, moment le plus merveilleux auquel vous puissiez penser.
The coming of the
la venue du Seigneur.
All those that love him.
Tous ceux qui ont aimé son avènement.
So when he left, he told her he'd be back at a certain time.
Ainsi, quand il partit, il lui dit qu'il reviendra un certain jour.
So when you begin to see in the winter, so when you begin to see those trees begin to bud, Gunner, let the seed and stuff begin to take on new life.
Il dit, lorsque tu verras, l'hiver approchait, il dit, lorsque tu verras ces arbres commencer à bourgeonner, que toutes ces choses auront une vie nouvelle, il dit, je reviendrai autour du printemps. Si je ne me trompe pas, je ne pourrais pas affirmer que c'était ainsi, mais la jeune fille recevait à peine 1,75 $ par semaine comme salaire de son travail. Mais elle en économisa chaque scène. Pourquoi? Elle se préparait pour le mariage qui devait arriver. Elle épargnait son argent pour sa robe de noces. Car il lui avait dit, nous nous marierons juste ici au ranch quand je reviendrai.
She saved her money all year. She was happy. She didn't mind washing the dishes. She didn't mind ironing the clothes or sweeping out the bunk house or what for. She was engaged to the boss of the ranch.
Elle économisa son argent toute l'année, elle était heureuse. Ça ne lui faisait rien de laver la vaisselle, ça ne lui faisait rien de repasser le linge, de balayer les chambres à coucher, quoi encore. Elle était fiancée au propriétaire du ranch. Qu'est-ce que ça importe ce que le monde peut dire? Pour un vrai chrétien. Qu'est-ce que ça peut nous faire d'être méprisés, rejetés, heureux les dévoreurs, car ils hériteront la terre?
The boss's sons are coming one day, and we're going to a wedding. What difference does it make? If you love his appearance.
Le fils du patron viendra un séjour, et nous irons souper les noces. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire pour nous, si vous aimez son avènement?
Answer was all the day passed.
Elle était toutes les jours, avait passé, les petites filles, les petites cousines s'étaient moquées d'elle, avaient dansé autour d'elle et avaient tout fait. Et elle disait, toi, pauvre enfant de l'asile.
Do you not know if he was just like all other men? He was just teasing you.
Ne sais-tu pas qu'il essayait simplement de te taquiner comme le font les autres hommes? Oh, mais le Fils de Dieu ne taquine pas.
Except the man be born again, he will in no wise, I don't care how good you look, how much church you belong to, what your status is in the country. You might be a politician, you might be in the federal government.
Un homme de net bureau, il ne peut en aucune façon, peu n'importe votre belle apparence, à combien l'Église vous appartenez ou quel est votre rang social, vous pouvez être un politicien, vous pouvez avoir un poste au gouvernement fédéral.
You might be in the Catholic Presbyterian, any church you want to be, but except a man be born.
Vous pouvez être dans l'Église catholique, presbytérienne ou l'Église que vous voulez, mais à moins qu'un homme ne naisse de nouveau.
You'll not enter, and these signs shall follow them that believe.
Vous n'y entrerez pas, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Je ne fais que citer sa parole. Finalement, quand l'heure arrivera, elle voyait que les arbres commençaient à bourgeonner. Elle savait qu'il serait là d'un moment à l'autre.
Elle dit, « I'll try to make it just as sundown. » So we can be married and hurry off.
Il avait dit, je tâcherai d'arriver juste au coucher du soleil afin de pouvoir se marier et de se dépêcher à partir.
And every evening at sundown, when she'd go and just make herself all ready, get her wedding garment on and wait at the gate.
Et tous les soirs au coucher du soleil, elle allait se préparer, revêtait sa robe de noces et allait attendre devant la porte.
And these little cousins come and laugh at her and make fun of her and said, you poor, silly, ignorant child.
Et que toute cousine venait rire et se moquer d'elle en disant, pauvre petite citadine, pauvre sœur, penses-tu que le fils du propriétaire du président de la compagnie Marie-Reine laveuse de vaisselle? Il recherchait la vertu et non pas l'habillement. Il avait assez d'argent pour acheter tous les vêtements nécessaires. Dieu se fiche de toutes les belles choses que vous avez, la terre entière lui appartient. Non, il désire la vertu. Il désire quelque chose de réel. Donc finalement, alors qu'elle se tenait là et qu'elle se moquait et riait d'elle en lui disant qu'elle était sotte, tout à coup elles entendirent le piétinement de chevaux
frais.
Là, sur la colline, on voyait venir un petit chariot. Juste un petit chariot fait de planches, comme on rencontre fréquemment dans l'Ouest. Et les chevaux avec leurs grelots et tout cela descendaient la montagne. Et quand l'attelage vint s'arrêter en face de la porte, elle courut à sa rencontre. Elle dit, je savais que tu viendrais. Ce sera comme ça avec l'église un jour.
Dolly, I've had a man stationed on this ranch since I left you last year. And thought me a report of everything that you've done.
Elle se jeta dans ses bras et dit, chérie, j'avais placé un homme ici sur le ranch depuis mon départ l'an dernier. Et il me rapportait tout ce que tu faisais.
God's got a man stationed in this tabernacle this morning.
Dieu a placé un homme dans ce tabernacle ce matin.
He's called the Holy Spirit.
Il s'appelle le Saint-Esprit. Il connaît les secrets de votre cœur. Il sait tout ce que vous avez fait et ce que vous pensez. Il raconte au Père tout ce que vous faites. Il va et vient, rapportant le message. Et il dit, celui-ci m'a dit que tu as attendu et tu as peiné, travaillé patiemment en attendant que je vienne. Tu as été esclave assez longtemps, maintenant ton esclavage est fini.
I've gone on the minister.
J'ai amené avec moi un ministre. Juste ici, sous ce treillis de rose, tu deviens ma femme. Il l'embrassa, lui mit l'anneau au doigt. Et l'amenant dans ses bras, il l'assit dans le chariot et la serra contre lui. Il partit pour aller habiter ce grand palais neuf à Chicago, la ville choisie des nations. Là où elle serait son épouse. Pourquoi? Elle était prête. Elle était le genre de femme qu'il désirait. Et tout cela arrive en un clin d'œil. Comme cette apparition soudaine et secrète du Seigneur. Le monde ne saura pas ce qui va se passer, mais nous le savons. C'est proche. Ne soyez pas comme les jeunes femmes de Pearl Harbor qu'on déshabilla. Vous sombrerez dans la honte. Soyez comme celle qui s'était préparée et qui avait conservé sa vertu et qui attendait la venue du Seigneur, car ce sera secret et soudain. Tandis que vous pensez à ces choses, inclinons nos têtes devant celui qui viendra. Juste avant que nous lui parlions, que chaque homme à sa façon, chaque femme, chaque garçon ou fille.
And while I am speaking to him and know that his secret agent, the one who you cannot see with your eyes, so he is a secret agent.
Et tandis que je lui parle et sais que son agent secret, celui que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, ainsi il est un agent secret.
The blessed Holy Spirit.
Le Saint-Esprit béni.
Is in this building.
Et dans cette salle.
Would you want him to remember you before Father this morning?
Voulez-vous qu'il vous rappelle au Père ce matin?
You will be ready and when he comes to go with him.
Et qu'il lui rapporte que vous désirez être prêt lorsqu'il viendra pour partir avec lui. Si vous le voulez, voulez-vous lever votre main au Seigneur, que Dieu vous bénisse. On voit toutes les mains dans la salle, les miennes aussi. Je veux au Saint-Esprit. Que tu dises au Père, d'abaisser son regard sur moi. Je vais marcher avec son peuple méprisé. Je veux partir, je veux être prêt à l'instant même parce qu'il peut venir avant la fin de la réunion. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes ont prédits. Les jours des nations sont comptés. Mais devant, ô dispersés, retournez chez vous. Le jour de la rédemption approche.
Men's hearts are failing.
Les hommes rendent l'âme de terreur. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vos lampes les voyez allumées. Levez vos têtes. Votre rédemption est proche. Le figuier pousse. Israël est restauré. Oh Dieu! Le figuier est en train de déjeuner. Israël revient comme nation. Et j'ai entendu le pasteur dire ce matin de prier pour Israël. Ne savez-vous pas que c'est le temps des bourgeons? Il doit venir à ce temps-là.
Article,
on my own camera.
Voyant qu'il est minuit moins trois, cet article sur ma caméra.
Il m'a projeté
dans mon sous-sol. À quand ces vieux juifs importants venant par bateau, etc., de toutes les parties du monde. L'intervieweur leur demanda, revenez-vous dans votre patrie pour y mourir? Ils dirent, non, nous venons pour y voir le Messie. Le figuier pousse. Ne le voyez-vous pas? Le jour de la rédemption est proche. Les faux prophètes
mentent.
Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus Christ est notre Dieu. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? Mais nous marcherons là où les apôtres ont marché. Le jour de la rédemption est proche. Les hommes rêvent l'âme de terreur. Pensez-y. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Vos lampes ne soyez plus allumées. Levez-vous tard. Votre rédemption est proche. Seigneur Dieu, en cet instant solennel, alors que je regarde cette petite assemblée, que je vois les visages rouges et les larmes sur les joues lissées, nous sommes conscients que le grand agent secret, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, prenons le chemin avec le petit troupeau méprisé du Seigneur. S'il y a des petits scrupules dans notre voisinage, parmi les gens, au sein de l'Église, ou peu importe où, cela n'a rien à voir avec nous.
We shall not defile our garments with things of the world anymore. Or you shall come someday in a moment, in a twinkling of an eye, that certain secret
nous ne soyons plus nos vêtements par les choses du monde, car tu viendras un jour dans un instant, en un clin d'œil, ce sera cet enlèvement soudain et secret de ton Église. Il viendra par-delà les montagnes du temps et descendra dans les cœurs sur l'arc-en-ciel pour enlever l'Église, car l'Écriture dit, la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront et nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs. Pour rencontrer le Seigneur, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi,
mes frères,
comprenez-vous les uns les autres par ces paroles. Que cela résonne fortement dans les cœurs de l'Assemblée ce matin, nous te louvons au nom de Jésus. Amen.